parole du jour avec le Père Willem.
Quelque chose de plus grand que nous. Si nous disons que notre soif de l'essentiel est soif de vérité, de bonté, de beauté, de justice et d'amour, comment rendre compte alors de son unité? Devant la beauté, nous avons l'impression de rencontrer la plus grande vérité, comme nous faisons l'expérience de la plus grande beauté quand nous rencontrons la bonté. Du point de vue de la soif, toutes ces qualités lumineuses sont reliées et apparaissent comme les différentes facettes d'un même diamant. C'est en ce sens que la soif de l'essentiel est une soif d'absolu. Elle est tendue vers un horizon vécu comme unique, dont possèdent toutes les qualités merveilleuses et lumineuses expérimentées dans ce monde. Cet horizon est à la fois la destination mystérieuse de notre soif et son origine secrète. Si notre soif de l'essentiel est soif d'absolu, c'est parce qu'elle ne saurait être seulement soif de beauté, de bonté et de vérité. Elle est soif de tout cela en même temps, et aussi de tout ce que la pensée ne sait appréhender que comme des contraires, l'amour et la force, la douceur et la fermeté, la mesure et la démesure, la raison et la folie. Le terme absolu a le mérite de désigner de façon neutre cet horizon vers lequel nous nous sentons appelés, car nous présupposons, en tort ou à raison, une unité de ce qui émerveille et illumine. Ce point focal de la soif n'est pas expérimenté en lui-même, il est comme un soleil qui ne voit pas, mais qui nous attire. Oui, elle ne voit pas ce soleil. Il nous attire par ses rayons. Voilà pourquoi l'horizon de notre soif est brumeux et que nous bafouillons dès qu'il s'agit d'en parler. Nous ne savons pas ce qu'il est, pourtant nous voulons le réaliser en nous réalisant. Nous mentirions en affirmant que nous savons ce que nous cherchons. Car la source d'où émanent la bonté et la beauté reste mystérieuse. Mais nous mentirions aussi en disant que nous ne savons rien de ce que nous cherchons, car les expériences lumineuses de nos vies nous ont indiqué un chemin et nous ont donné la saveur de cet absolu. Toutes les réalités qui ont éveillé et animé en nous la soif ont ce goût d'absolu, car leur valeur n'est relative à rien. On ne regarde pas de haut celui qu'on aime, mais en nous, quelque chose s'incline. Si l'expérience de la beauté ou de la bonté nous donne le sentiment de nous élargir, elle nous amène aussi à nous incliner devant ce qui s'offre à nous comme plus grand que nous, plus grand que notre bien-être, que nos soucis ou que nos intérêts. N'oublions pas que les mots « homme » et « humanité » viennent du latin « humus », la terre, car l'homme n'est vraiment humain que lorsqu'il est capable de s'incliner et de reconnaître qu'il y a au-dessus de lui une dimension infinie et mystérieuse qui n'émane pas de lui, mais qui s'offre à lui. C'est ce qu'on appelle aussi le sens du sacré. Le sacré n'est pas ce dont on se sert, mais ce qu'on sert. C'est une différence là. Et sacré, ce pourquoi et par quoi l'homme cherche à donner le meilleur de lui-même, ce qui est suffisamment digne pour que nous soyons prêts à lui sacrifier notre intérêt particulier et jusqu'à notre vie. On reconnaît les assoiffés de l'essentiel à cette humilité et à ce sens de la verticalité. La référence à l'idée de verticalité ne présuppose pas encore une fois la vérité d'une religion révélée, Tout homme en quête d'une vie plus profonde et qui cherche à grandir en humanité est naturellement conduit à s'incliner devant ce qui se manifeste comme suffisamment précieux pour être poursuivi et servi. Tolstoï met cette vérité en lumière dans sa nouvelle intitulée Maître et serviteur, quand il relate la mort de Vassili Andreïtch Vrekounak. Ce riche marchand n'a jamais rien fait gratuitement. Avare de sa propre vie, il n'a jamais tenté de la risquer pour quoi que ce soit. Comme la plupart des gens qui ont une existence facile et confortable, il s'est toujours ressenti dans son bon droit, estimant ne rien devoir à personne. Comme tous ceux qui ont la chance d'être en bonne santé et qui possèdent assez d'énergie pour travailler, il estime cet homme-là que tout ce qu'il a est mérité. Une nuit, perdu dans une tempête de neige, il sent la mort venir. Alors il regarde autrement sa vie. Il voit son serviteur Nikita à terre, vivant, mais franchement très épuisé. Brusquement, sans en rien peser, ni délibérer, il défait son manteau pour recouvrir Nikita avant de s'allonger sur lui en lui donnant sa chaleur et lui donne sa vie. Alors, plein d'une allégresse attendrie, il sent qu'il est libre et que rien ne le retient plus. Cet homme qui se croyait propriétaire de tout, y compris de sa propre vie, réalise alors que la vie ne lui appartient pas, mais qu'elle lui a été donnée et que c'est en se donnant lui-même qu'il se met le mieux au service de la vie. Cette page bouleversante montre à quel point l'humilité n'a rien à voir avec l'humiliation. Paradoxalement, c'est en s'inclinant devant plus grand que lui que l'homme grandit. La soif de l'essentiel se manifeste quand l'homme est debout, mais incliné du côté du mystère, pour reprendre la belle expression de Victor Hugo. L'intensité de notre soif est proportionnelle à l'humilité qui nous habite devant ce qui nous donne la vie et la joie au point de vouloir servir la vie, le bien, le beau, et même à l'humilité qui transparaît dans la manière dont nous parlons de l'objet même de notre soif. Un arbre qui porte beaucoup de fruits est un arbre dont les branches ploient, dit très justement un vieux proverbe persan.